Bonjour Didier Pilon, je suis heureux de vous retrouver depuis les studios de Radio Fidélité en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique pour que nous passions une petite heure ensemble à l'écoute d'œuvres de Piotr Ilitch Tchaïkovski. On va écouter successivement son fameux concerto pour piano et orchestre numéro 1 qui porte l'opus 23 et on terminera par une très belle marche slave qui montre à quel point Tchaïkovski veut montrer qu'il est russe. Pourquoi je dis qu'il veut montrer qu'il est russe ? Eh bien parce que ce compositeur a toujours eu du mal à s'imposer parmi ses compatriotes. Il ne faut pas oublier que la musique russe, elle est née avec Glinka. Je vous renvoie évidemment à l'ouvrage Rousland et Ludmila, mais Glinka est le père de l'opéra, mais il a plutôt, si vous voulez, été suivi par le fameux groupe des cinq. Les Russes qui étaient véritablement attachés à leur histoire et à leur musique. Tandis que Tchaïkovski, de l'autre côté, même si lui s'estimait être un héritier de Glinka, était jugé trop occidental par les autres. Et c'est comme ça qu'il y a eu toujours cette difficulté et, j'allais dire, ce mal-être qui a poursuivi Tchaïkovski, puisqu'il est né, je le rappelle, le 25 avril 1840, dans l'Empire russe, dans une petite ville qui s'appelle Votkinsk, qui est un peu perdue dans l'Oural, et il va mourir eh bien, à Saint-Pétersbourg à 53 ans, ce qui est très jeune. Alors, de temps en temps, je le dis au passage, vous aurez peut-être des différences de date dans la naissance, parce que il y a le calendrier russe et il y a le calendrier grégorien chez nous. Alors, tantôt, il naît le 25 avril 1840, mais vous le trouverez chez nous comme étant né le 7 mai. C'est le même jour. Mais simplement, je vous rappelle qu'il y a un décalage donc entre le calendrier grégorien et le calendrier russe. Ce qui est certain, et c'est toujours le cas d'ailleurs, et ce qui est important, c'est de voir que cet homme, eh bien, qui a eu un succès planétaire, qui était véritablement un compositeur reconnu dans la seconde moitié du 19e siècle, a toujours été neurasthénique. Il faut comprendre que c'est d'abord un homosexuel refoulé, qu'il va épouser une femme qu'il n'aime pas, ça va le rendre évidemment malheureux. Il tombe plus ou moins amoureux d'un de ses neveux, puis d'un neveu du grand-duc de Russie. Donc c'est quelqu'un, je vais dire, de très tourmenté, mal dans sa peau au sens littéral du terme. Et puis cet aspect qu'on ne le veut pas le reconnaître comme un Russe, mais comme un Occidental, va encore plus le blesser. Et donc ça expliquerait sans doute sa fin, puisqu'on prétend qu'il s'est suicidé. Alors s'est-il suicidé ou était-il négligent ? Il aurait bu, en tout cas, enfin il a bu de l'eau empoisonnée, parce qu'il y avait la peste et le choléra, et il aurait bu de l'eau, j'allais dire, du robinet, ce qui fait qu'il meurt dans d'atroces souffrances de choléra. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est, l'a-t-il fait volontairement, c'est un suicide, ou est-ce que c'est une négligence qui fait qu'il va mourir bêtement en s'empoisonnant lui-même ? On ne le saura pas, mais en tout cas, ce qui est véritablement très important, c'est de comprendre qu'à partir des années 1870, eh bien, Tchaïkovski va devenir vraiment presque le compositeur russe le plus reconnu, en tout cas à l'étranger. Et c'est dans ce contexte-là, puisque ça va être créé curieusement aux États-Unis et pas en Russie, que va naître son fameux concerto pour piano et orchestre numéro 1, qui est en si bémol mineur, et qui porte l'opus 23, et bien que cette œuvre va être absolument créée donc en 1875 à Boston. Au départ, Tchaïkovski avait demandé à un grand pianiste russe qui s'appelait Nikolaï Rubinstein, qui était d'ailleurs le directeur du conservatoire de Moscou, d'assurer la partie d'interprète. Et Rubinstein a refusé parce qu'il trouvait que c'était trop dur à jouer. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est de noter au passage que Tchaïkovski était un piètre pianiste. Donc c'est peut-être justement parce qu'il n'était pas très doué qu'il a écrit une œuvre, j'allais dire, presque injouable. Et ça expliquerait donc pourquoi Rubinstein n'a pas voulu. Ce qui est très beau en tout cas, c'est que ce concerto s'inscrit dans une période, encore une fois, très glorieuse de Tchaïkovski, où il va faire entendre notamment tous ses grands ballets comme le Lac des Cygnes. Donc on a envie d'entendre du Tchaïkovski et ce très beau concerto qui comporte trois mouvements eh bien, va être créé encore une fois dans une ambiance de création mondiale. Alors ce concerto, on va écouter tout de suite le premier mouvement qui est assez long, hein, il fait presque 21 minutes à lui tout seul. Alors il commence comme quelque chose d'allegro non troppo et puis d'un seul coup il va devenir de plus en plus ample, de plus en plus majestueux et il se termine en allegro con spirito, donc un allegro qui est presque plus léger. Ce qu'on sait souvent, on connaît le début de ce concerto avec ses grands accords du pianiste, mais il faut encore une fois de très très grands interprètes pour justement parvenir au bout de cette très très grande partition qui est encore une fois avec des climats très variés. Dans ce premier mouvement, justement, on va entendre du folklore, de la danse, mais on va entendre également l'âme russe. Donc, sans plus attendre, parce que j'étais très bavard, je vous propose d'écouter le premier mouvement du premier concerto pour piano et orchestre de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Thank you. Thank you.
venez d'entendre cette magnifique version d'un concerto qui est parmi, il faut bien le dire, peut-être, allez, je vais le dire vite, les 20 premiers, les 20 plus célèbres concertos de musique classique au monde, ce concerto de Tchaïkovski, le numéro 1, en si bémol mineur, je le précise bien, interprété ici par la très grande pianiste Martha Argerich, tandis que l'Orchestre Royal Philharmonique est placé sous la direction d'un chef canadien qui s'appelait Charles Dutoit. C'est encore une fois une très belle œuvre. Je rappelle au passage que Tchaïkovski a composé 3 concertos pour piano et orchestre. Malheureusement, on ne joue jamais le deuxième, parce que c'est tellement le premier qui est le plus beau, et le troisième est assez inachevé. Donc, des 3 concertos, c'est vraiment celui-là qui est le plus important, mais même si, encore une fois, les Russes, notamment le groupe des 5, ne veut pas reconnaître Tchaïkovski comme un des leurs, pour l'étranger, et notamment pour les Américains, donc c'est véritablement de la musique russe. Donc je vous propose d'écouter maintenant le deuxième mouvement de ce concerto, l'Andantino Semplice, donc un petit andant très simple, où là, on va changer complètement d'atmosphère, et on va ressentir, me semble-t-il, le côté un peu neurasthénique, en tout cas le côté un peu triste de notre pauvre Piotr Ilitch Tchaïkovski, qui encore une fois, malgré un succès phénoménal, n'a jamais été véritablement heureux. Et donc, on le ressent peut-être en écoutant tout de suite ce très bel Andantino Semplice du concerto pour piano et orchestre numéro 1 de Tchaïkovski. Thank you. Je vous rappelle que c'est Martha Gerich qui tient la partie de soliste aux côtés de l'Orchestre Philharmonique Royal sous la direction de Charles Dutoit. Et nous allons conclure notre audition de ce concerto en écoutant évidemment le troisième mouvement. Alors là, qui est beaucoup plus rapide. C'est un allegro con fuoco, c'est-à-dire que c'est un allegro très vif, très animé, où on sent encore une fois toute la palette orchestrale. Parce qu'on a beau dire, Tchaïkovski, il écrit de très très belles mélodies, mais c'est aussi quelqu'un qui sait faire parler tous les timbres de l'orchestre. Et à côté du piano, qui est évidemment le roi de ce concerto, l'orchestre, toute la palette de l'orchestre, les bois, les cuivres, les cornes et les percussions, tout ça, ça chante énormément. Je rappelle aussi que on est là véritablement dans la conception romantique du concerto. Autant au XVIIIe siècle, avec Mozart, avec Haydn, on était dans un dialogue, hein, se concerter, se parler. Un concerto, c'est ça. Il y avait un véritable dialogue entre le soliste et l'orchestre. Au XIXe siècle, très romantique comme Tchaïkovski, je vais le dire vite, mais je le pense, c'est le soliste contre l'orchestre. C'est la personnalité de l'artiste contre le monde. Et c'est bien dans cette vision-là qu'il faut comprendre ce concerto où on a cette rivalité, je vous rassure tout de suite, qui va se terminer bien évidemment, mais on sent beaucoup plus une opposition qu'un dialogue entre le piano et l'orchestre. Et tout de suite, je vous propose donc de terminer notre audition de cette première œuvre de Tchaïkovski en retrouvant Martha Argerich, Charles Dutoit, l'Orchestre Royal Philharmonique de Londres, pour interpréter la conclusion, l'Allegro con fuoco, de ce magnifique concerto pour piano et orchestre numéro 1. venez d'entendre, dans une magnifique interprétation, pour moi une des plus belles, de ce concerto pour piano et orchestre numéro 1 en si bémol mineur, je vous donne tout, opus 23, le concerto pour piano et orchestre numéro 1, donc de Tchaïkovski, dans la très belle version due à la grande pianiste Martha Argerich, qui vit toujours, hein, qui est encore une fois devenue presque un mythe finalement pour tous les pianistes. Et Charles Dutoit, eh bien, c'est ce chef qui l'accompagnait, si je puis dire, qui discutait, qui était presque en rivalité avec elle, avec l'Orchestre Royal Philharmonique de Londres. Voilà donc cette première œuvre de notre Tchaïkovski que je voulais vous faire entendre. Et nous allons conclure notre émission, on a encore un peu de temps, assurez-vous. Mais je voudrais vous faire entendre cette très belle marche slave, opus 31, que Tchaïkovski également va faire entendre finalement à Moscou cette fois-ci. Il est très heureux parce que c'est une commande. C'est une commande d'une société musicale russe qui, pour le bénéfice de la Croix-Rouge, avait demandé à son compatriote devenu très célèbre, Tchaïkovski, d'écrire donc cette fameuse marche slave. Et je la trouve très intéressante parce qu'on voit le côté russe, on voit le côté slave de Tchaïkovski. Je vous l'ai dit, tout au long de sa vie, il va se battre pour imposer son côté russe, alors qu'on le considère trop occidental dans toute la partie de la Russie. Et Tchaïkovski dit « Mais non, je suis un vrai russe et je veux le prouver. » Et c'est ainsi que cette marche slave prend toute sa valeur à la fois musicale, artistique et je serais tenté de dire également politique. Alors, cette marche slave, d'ailleurs Tchaïkovski curieusement l'appelait la marche serbo-russe. C'est peut-être au départ une œuvre modeste, mais elle est pour une grande cause, hein, pour la Croix-Rouge, et elle va avoir quand même un succès extraordinaire. Et là, les Russes, finalement, vont se dire « Mais oui, Tchaïkovski, c'est bien un Russe, c'est un des nôtres, et il mérite toute notre attention. » Et c'est ainsi que le compositeur va l'écrire assez rapidement, hein, c'est une commande, en septembre 1876, donc vous voyez, il n'a que 36 ans quand il écrit cette œuvre, et il va l'écrire dans une forme classique, hein, vous savez ce qu'on appelle la forme thème A, thème B, et on termine par le thème A à nouveau, avec ce qu'on appelle une reprise et un mouvement très rapide. C'est à la fois, vous allez l'entendre, un mélange de chants populaires russes, mais on va entendre l'hymne tsariste à l'intérieur de cette musique. Parce qu'évidemment, on veut montrer qu'on appartient au grand empire russe, et c'est pour ça que cette musique est tout à fait intéressante, même si pour certains, elle peut apparaître un peu, j'allais dire, anecdotique. Ce n'est peut-être pas la plus belle œuvre de Tchaïkovski, mais pour moi, elle est intéressante parce qu'elle montre à quel point Tchaïkovski se considère comme un compositeur russe que lui refuse finalement, hein, le fameux groupe des cinq avec César Cui, avec Moussorgsky, avec Rimsky-Korsakov. Non, pour eux, Tchaïkovski, c'est un occidental, ça n'est pas un russe. Et ça n'est pas vrai du tout pour notre pauvre Piotr Ilitch Tchaïkovski. Je dis le pauvre parce que, comme je vous dis, il est mort en 1893, hein, il n'a que 53 ans. Et il meurt dans des conditions extrêmement bizarres, mais en tout cas qui prouvent à quel point Tchaïkovski est dans un mal-être permanent. Alors, on écoute cette très belle marche slave que dirige ici Herbert von Karajan à la tête de son fameux orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et vous allez voir, c'est une version très brillante, naturelle de cette œuvre de Tchaïkovski. Thank you. terminer cette émission, j'étais en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique et j'espère que vous avez apprécié ces deux belles œuvres de notre compositeur russe d'aujourd'hui, Piotr Ilitch Tchaïkovski, qui, je vous le rappelle, est né en 1840 et qui est mort en 1893. Nous avons pu entendre la très belle marche slave, opus 31, qui a été composée, je vous le rappelle, en 1876 pour le bénéfice de la Croix-Rouge et ça avait été commandé par une société russe. Donc, c'était une très belle version du Herbert von Karajan à la tête de l'Orchestre philharmonique de Berlin. Et j'espère bien sûr vous retrouver prochainement sur les ondes de Radio Fidélité.